Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chiens méchants, ça sent si bon la France. À chaque gare, un murmure, en passant vous saisit. Paris direct en voiture, oh. Ça sent bon le pays.
Ça sent si bon la France. Bonjour Bernard Vaution.
Bonjour.
Alors Bernard Vaution, beaucoup de gens le savent, mais vous avez été pendant 40 ans dans les coulisses, dans les cuisines de l'Élysée. Et donc c'était un peu votre mission de donner le goût de la France aux hôtes de l'Élysée.
Oui, bien sûr. Ah. C'était avant tout notre rôle de mettre à disposition et de pouvoir transformer tous les produits bien français, voilà, pour représenter notre pays, bien sûr.
Là, vous n'êtes plus dans cette maison dorée, mais vous êtes retourné dans vos terres d'enfance.
Oui.
Hein, en Sologne.
En Sologne, à côté de la Sologne aussi. Et puis voilà. Et puis je me consacre à aller rendre visite dans les écoles hôtelières, les CFA, voir rencontrer les jeunes, leur expliquer un petit peu ce métier et puis cet angle différent par les institutions.
Alors Bernard Vaution, vous démarré très très tôt oui. Là-bas et vous n'avez pas démarré en tant que chef.
Oui, après voilà, j'ai fait mon service militaire à l'Élysée à l'époque. Précédemment, j'avais travaillé à l'ambassade néerlandaise et puis anglaise.
La Grande-Bretagne étant la voisine directe, l'ambassade de Grande-Bretagne était la voisine directe de l'Élysée.
Plus que quelques mètres à faire en fait, voilà. Et puis service militaire s'est bien passé, donc le chef qui était en place à l'époque, Monsieur Le Cerveau, m'a demandé de rester comme ouvrier et puis il m'avait dit si tu veux rester avec nous un an ou deux. Et j'ai passé 40 années.
Et alors, est-ce qu'on vous pouvez nous rappeler les échelons que vous avez franchis?
Oui, bien sûr. Alors, on rentre comme commis. Après, on passe premier commis. Ensuite, demi-chef de parti. Chef de parti, là, donc, on est responsable d'un petit groupe. Et après, on est sous-chef, adjoint du chef. Et enfin, nommé après par le président de la République comme chef exécutif.
Voilà. Et alors, le commis, son rôle, c'est d'éplucher les légumes, c'est de...
Et bien sûr, oui, c'est vrai que c'est pas toujours très agréable. Mais bon, il faut commencer par le début. Et effectivement, voilà, on a plusieurs postes qui sont un petit peu ingrats, mais qui sont nécessaires à la formation d'un cuisinier.
Ouais. Alors, quand vous êtes arrivé à l'Élysée, le président était le président Pompidou.
Georges Pompidou, oui, tout à fait, oui.
Et la cuisine sous Pompidou, qu'est-ce que c'était?
Alors, c'est une cuisine, on va dire, d'époque, hein. Il faut se remettre dans le contexte des années 70. Donc, de la cuisine qui est mijotée, qui est rôtie, qui est, voilà, un petit peu avec des sauces un petit peu lourdes, c'est vrai, par rapport à quand on compare à maintenant. Mais bon, voilà, c'était comme ça à l'époque, et on ne trouvait rien à leur dire, et le président était ravi de ce qu'on lui confectionnait.
Eh bien, la position, comment ça se passe dans la cuisine de l'Élysée? Il y a une hiérarchie très stricte. Il y a combien de personnes déjà?
Alors, en cuisine, à l'époque, bien sûr, il y avait beaucoup de moins. On était 8 ou 9 pour mémoire. Et maintenant, la brigade est de 25 personnes parce que le travail a évolué, le nombre de couverts a bien sûr grossi. Et donc, il a fallu un petit peu répondre à ces nouvelles données.
Combien de personnes sont nourries par la cuisine de l'Élysée?
Voilà, on peut considérer que si on lisse un petit peu les choses, il y a environ 250 couverts au jour à l'Élysée. Donc ça se décompose entre le personnel, les secrétaires dans les bureaux, les conseillers, la partie officielle bien sûr du président, la partie privée et familiale, et puis même les repas avions qui sont servis dans tous les déplacements officiels.
C'est-à-dire que vous préparez des repas qui sont ensuite embarqués dans des caissons?
Voilà, dans des caissons qui sont sécurisés, et en plus on remet au steward. Et après, pour les vols, alors bien sûr on confectionne sur des vols de 48 heures aller-retour. Au-delà, c'est difficile après de conserver les choses. Mais voilà, pour une question de sécurité, c'est confectionné également à l'Élysée.
Alors, il paraît que pour le président Sarkozy, il ne fallait pas oublier la glace au café.
La glace au café, oui, il y a eu une petite aventure à ce sujet. Parce que bien sûr, bon, le chef ne peut pas tout maîtriser, tout voir. Et c'est vrai que ce jour-là, moi, j'avais un petit peu loupé ce départ d'avion. Et c'était pas présent. Et en même temps, le président Sarkozy n'en prenait pas systématiquement. Mais bon, il fallait que ça soit à bord. Et ce jour-là, bien sûr, on l'oublie et il en demande. Donc voilà, il n'est pas content du tout. C'est vrai que j'en ai entendu parler pendant 8 jours. Mais bon, voilà, quoi, c'était un petit oubli. Donc et du coup, j'avais fait faire des pancartes assez grandes pour qu'à l'avenir, on n'oublie plus cette glace café.
Alors qu'est-ce qu'il ne fallait pas oublier pour chacun des présidents que vous avez côtoyés ?
Ah bah après, il y a une réunion qui se fait avec le nouveau couple présidentiel lorsque le président est élu. Et donc on fait un petit peu le tour de tout. On épluche bien sûr la vie officielle, mais la vie privée. Donc ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et voilà. Et après, une fois qu'on a un petit peu cette ligne de conduite, il faut s'y tenir et puis essayer de ne rien oublier. Voilà, nous on fait partie d'une équipe technique, on va dire, et essayer de rendre la vie du président la meilleure possible.
Et est-ce que vous aimez les œufs brouillés ?
Ah oui, moi j'aime particulièrement les œufs, sous toutes ses formes.
Devant nos confrères, le chef de l'État a rappelé son intention de déjeuner une fois par mois dans une famille française. La première fois, à la fin de ce mois, je peux vous le dire, dans la région parisienne. Au cours de sa conversation à bâton rompu hier, M. Giscard d'Estaing a confié que son plat préféré était les œufs brouillés. Un plat simple, mais, a-t-il dit, difficile à réussir. Alors, puisque dans quelques semaines, le chef de l'État risque de frapper à votre porte, et que vous aurez peut-être envie de lui faire plaisir, et que vous ne connaissez peut-être pas la recette des œufs brouillés, eh bien, la voici.
Alors, la voici, mais c'est Bernard Vaution qui va nous la donner aujourd'hui.
Oui, bien sûr, mais c'est pas très compliqué en fait. Nous, bien sûr, il faut une casserole en cuivre, c'est encore mieux. Mais bon, voilà, il faut mettre du beurre un petit peu en pommade à l'intérieur, bien sur le fond et sur les parois, assez abondamment, voilà, faut être généreux. Et après, on casse les œufs directement dans la casserole, enfin directement, dans un petit plat avant pour au cas où, et puis après, on les transverse dans la casserole, et puis après, on prend une spatule en bois, et on met ça au bain-marie, par contre. En direct sur le feu et on remue. Alors ça peut être, si vous cassez, je sais pas moi, 10 ou 12 œufs, et il va falloir quand même un quart d'heure, 20 minutes pour que ça cuise tranquillement, donc au bain-marie, avec une petite spatule en bois, et on remue sans arrêt. Alors donc ça va pas faire des petits grains, ça va faire une espèce d'œuf, ça devient assez onctueux en fait, hein, avec des morceaux et tout ça, donc voilà, il n'y a plus qu'à assaisonner. Et pour M. Giscard d'Estaing, on va ajouter un petit peu de truffe et de jus de truffe. Voilà.
Vous étiez déjà chef de parti ou
demi-chef? Oui, j'étais chef de parti à l'époque, oui, tout à fait. Oui. Et j'ai eu le plaisir d'en faire plusieurs fois pour le président.
Et vous aviez vu le film de Joël Santoni, Les œufs brouillés, avec Michael Lonsdal dans le rôle du président Giscard d'Estaing?
Non, je n'ai pas vu ce film-là. J'ai vu le suivant avec Madame Delpeux, mais pas celui-ci.
Alors justement, Madame Delpeux, quand Daniel Delpeux arrive dans les cuisines du palais, oui. Comment vous l'avez accueilli? Alors là, vous n'êtes pas encore chef.
Alors moi, je suis pas chef. Non, c'est vrai que moi, je l'ai accueilli tout à fait normalement, hein, bien sûr. Mais il est vrai qu'à l'époque, le chef était un petit peu frustré de
ça. C'était Monsieur Normand,
voilà, qui était en poste à l'époque et qui apprend cette nouvelle. Et donc, forcément, c'est jamais très plaisant. Mais bon, après, malgré tout, il faut s'adapter. Ce sont les vœux du président avant tout. Hein.
Et alors, ne pas être celui qui nourrit la bouche du roi, c'est un élément de disgrâce.
C'est pas une disgrâce, mais disons, je pense qu'à l'époque, M. Mitterrand voulait avoir une cuisine un petit peu plus simple pour sa vie personnelle, sa vie en dehors de la vie officielle, hein, tout simplement. Donc ça, c'est une autre cuisine en fait, hein, qui est à l'aile est du palais. Il y a une petite cuisine qui est pas très grande et qui sert justement à confectionner les repas privés.
Et alors, est-ce que le chef qui vous a succédé, qui était votre second,
parce oui, que tout à fait.
On a l'impression qu'il y a comme ça une dimension un peu dynastique et...
Eh oui, un peu famille. C'est vrai que depuis le départ de l'arrivée de Monsieur Le Cerveau, on reste un petit peu dans cette même famille. Voilà, on se connaît bien et on se passe le flambeau en même temps.
Avec une promotion.
Au fur et à mesure, voilà. Voilà, il y a cet esprit de promotion et puis c'est vrai que tout le monde n'est pas volontaire pour ça non plus, donc ça se détache assez facilement et puis après vient le jour où on prend les rênes de cette maison.
Et vous avez alors aujourd'hui vous venez de déjeuner à l'Élysée.
Oui, tout à fait.
Vous avez déjeuné dans les cuisines?
Dans les cuisines, voilà, un petit peu régulièrement je vais un petit peu saluer un peu tout le monde et puis non seulement les cuisiniers, mais les maîtres d'hôtel, la sécurité. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai gardé des contacts, bien sûr.
Et alors, comment ça se passe un repas dans la cuisine? Alors maintenant, c'est le chef, c'est Monsieur Gomez, qui était votre second.
Qui était mon adjoint, oui.
Et donc, on peut savoir ce que vous avez mangé aujourd'hui?
Oui, il y avait une espèce de petite mousse de fromage au curry avec des petits dés de pommes dedans. Il y avait un rôti de veau. Voilà, un petit morceau de fromage. Et puis voilà. Donc, mais ça, c'est une petite salle à manger, donc qui est à l'intérieur de la cuisine. Qui sert uniquement pour les cuisiniers.
Et pour le personnel de la maison?
Alors, le personnel, on va dire, intérieur, ceux qui ne peuvent pas tellement bouger, en fait, c'est surtout ça, en fait, c'est la proximité d'avoir aussi un petit self pour les gens qui ont du mal à se déplacer entre la sécurité rapprochée du président, les médecins, les maîtres d'hôtel et autres, lingères, les argentiers également, voilà, tout, et l'intendance. Donc, ils déjeunent dans un petit self qui est attenant à la cuisine et voilà, ils sont dans les murs. Et après, le gros de la troupe, on va dire, du personnel de l'Élysée, il y a une cantine rue de l'Élysée où ils font 400 à 500 couverts le midi.
Et le goût de la France, enfin, ce côté douce France, c'était revendiqué par chacun des présidents?
Oui, je pense qu'ils ont eu une importance quand même dans la table, hein, quand même, parce que il est évident que tous les premiers ministres, présidents, rois, reines du monde entier vont passer à l'Élysée. Donc il y a quand même, on s'inquiète quand même de ce que va manger les hôtes de la République. Et le président choisit d'ailleurs les menus. Moi, je passais des propositions de menus, d'entrée, de suite, de dessert pour chaque événement. Et c'est le président lui-même qui choisit. Et ça, qu'il n'y a pas de politique dans ce domaine, que ce soit droite-gauche, les présidents successifs ont toujours choisi les menus eux-mêmes, avec des fois l'aide de leur compagne ou femme, bien sûr. Mais il y a quand même cette volonté de quand même avoir un œil sur ce que l'on va servir aux hôtes de la République.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.
On ne parle pas la bouche pleine sur France Culture avec Alain Crugère.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge on par étage et mon bonheur.
Alors Bernard Vaution, des enfants de leur âge, comment ça se passait d'un président à l'autre? Les plus gourmets, c'était...
Alors les plus gourmets, c'est vrai que quand même on peut avoir comme référence Giscard d'Estaing qui a un petit peu voulu révolutionner un petit peu le fonctionnement et puis la façon de se nourrir. Hein. C'est lui qui a mis en lumière à l'époque Paul Bocuse, hein, en lui remettant la Légion d'honneur. Donc c'était quand même appuyé sur ce secteur d'activité qui est la gastronomie. Donc voilà, c'est lui un petit peu qui a réveillé tout ça. Et puis après, Monsieur Mitterrand a continué également. Et puis jusqu'à nos jours également, on voit qu'il y a une nécessité de coller à ce qui se passe dans la vraie vie d'abord. Et puis d'avoir surtout une bonne table.
Et alors, dans cette bonne table, est-ce qu'il y a des particularités qu'on peut mettre en exergue? Le convive, la nature du convive et la relation entre le chef et le chef d'État, comment ça se passe? Vous venez présenter votre menu?
Oui, voilà. Alors, en amont, bien sûr, moi j'avais le programme confidentiel du président, donc ça me permettait d'avoir les informations sur les futurs invités et le nombre. Et en fonction, bien sûr, de chaque personne reçue, on reçoit pas quelqu'un des Indes ou du Golfe Persique ou de l'Allemagne. C'est sûr, c'est complètement différent. Donc, à nous aussi de s'organiser pour présenter quelque chose qui va bien au pays qu'on reçoit. Et puis, donc, proposer en permanence au président avec des intitulés. Moi, je faisais ça, bien sûr, manuellement, mais c'était tapé à la machine, mis dans un maroquin, ce qu'on appelle, hein, en cuir. Et on a envoyé ça au président. Et puis, donc, juste à mettre des petites croix, des annotations éventuelles, ouais. Voilà, pour les différents repas qui allaient suivre. Ensuite, ça redescendait, bien sûr, dans le bureau du chef. Et puis là, il fallait mettre en musique tous ces repas. Voilà.
Et quand on reçoit des annotations, est-ce qu'il arrivait d'avoir des menus tout rayés?
Alors, il y a eu une époque, je crois que le menu où il y a eu le plus de refus, c'est l'époque de Monsieur Mitterrand quand même. Hein, que voilà, il y avait des choses qui lui convenaient pas. Donc même, c'est arrivé qu'il y avait des menus complets. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu compliqué parce que le fait d'avoir un seul client, entre parenthèses, c'est très compliqué parce qu'il faut renouveler les choses en permanence. Et on ne peut pas, on n'a pas de carte. Il faut absolument présenter des choses et complètement différentes tout et tout le temps. On ne peut pas représenter un plat identique sur un mois et demi ou deux mois.
Et est-ce qu'il y a une volonté aussi de mettre en avant une mémoire gastronomique française? Est-ce que vous pensez à des gens comme Antonin Carême, par exemple?
Oui, alors après, bien sûr, on a utilisé des recettes d'Antonin Carême et puis de cuisiner anciens comme celui-ci. Mais après, bien sûr, c'est revisité, comme on dit, et puis remis au goût du jour. Les portions sont plus les mêmes, les cuissons sont différentes également, donc...
Et alors, quand on passe par ces cuisines, est-ce que vous avez préparé du civet aussi? Est-ce que alors, le lapin est, est-ce qu'il y a des plats proscrits? Est-ce qu'il y a des interdits alimentaires?
Alors, ce sont pas véritablement des interdits, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu moins faciles à présenter et à servir, surtout pour des hôtes étrangers. Donc, le lapin, ben, alors après, voilà, est-ce que le président ou le premier ministre étranger va apprécier ça? C'est pas évident. Donc, c'est vrai qu'on reste un petit peu cantonné dans toutes les volailles, par contre. Le veau, le bœuf, l'agneau, voilà. Après, s'il y a une demande d'avoir un repas un petit peu plus décontracté, alors quand on reçoit des chefs d'entreprise ou autres, là évidemment on va pouvoir un petit peu sortir des grandes traditions avec la volaille de Bresse ou autre.
Et le civet à toute vitesse, par exemple celui de Leonard Bernstein, vous l'avez goûté?
Non, je ne l'ai pas goûté, mais bon.
On va l'écouter alors.
Oui, bien sûr.
Voici une manière de confectionner un civet de lièvre que je recommande. Épicez le lièvre comme pour le civet ordinaire. Mettez-le dans une casserole ou un chaudron avec son sang et son foie écrasé. Ôtez mes lièvres de poitrine de porc coupé en morceaux. Une vingtaine de petits oignons, un peu de sel et poivre. Un litre et demi de vin rouge. Fais bouillir à toute vitesse. Fais bouillir à toute vitesse. Au bout de 15 minutes environ, lorsque la sauce est réduite de moitié, approchez un papier enflammé de manière à mettre le feu au ragoût. Lorsqu'il sera éteint, ayez la sauce avec un demi-livre de pain, manier de farine. Servez.
Madame Vaution, est-ce que vous chantez vos recettes de temps en temps?
Même pas. Non. Je crois pas faux, mais bon, non, c'est pas ma vocation.
Alors, le dernier président que vous ayez accompagné, c'est le président Hollande.
Oui.
Alors, quelle était la particularité de ce chef d'État à
alors,
table?
Par contre, c'est vrai que c'était relativement facile, parce que c'est quelqu'un qui aime manger et qui n'avait pas tellement d'interdits. Donc, du coup, j'ai pu réexploiter un petit peu toute la palette, et de ce qu'on avait déjà servi, d'ailleurs, parce qu'il y a une mémoire historique des menus. Et donc, j'ai pu un petit peu relancer tout ce qui avait été servi au fil des ans. Et puis, voilà. Et puis, pas tellement d'interdits. Donc, c'était assez facile pour moi de travailler avec lui, oui.
Même les asperges?
Alors, il y a les asperges, il y a deux, trois éléments, peut-être un petit peu l'artichaut, des choses comme ça. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, tout le reste, ça passait bien. Et il n'a pas eu de chance parce que le premier repas qu'il a fait, donc, il est allé en Allemagne le soir de l'investiture et le chef, ne sachant pas, il lui a servi des asperges. Chef allemand.
Et alors, dans l'entourage direct du président de la République, il y avait le directeur adjoint de son cabinet, l'adjoint de M. Jouyet. Vous pouvez nous rappeler qui c'est?
Monsieur Macron.
Ah, voilà. Oui. Et alors, que Monsieur Macron, alors à après, table, ben quel, oui, quel convive était-il?
Ben plutôt quelqu'un quand même de facile, on va dire. Quand même. Bon, puis après, en même temps, voilà, c'est pas le président de la République, donc il n'a pas le choix des menus. Moi, les menus qu'il a eu l'occasion de déguster, c'était plutôt imposé, donc par le chef. Donc voilà, mais quelqu'un de plutôt toujours agréable, souriant, qui remercie, donc voilà, pas de problème particulier. Voilà.
qui descendait dans les cuisines, Bernard Vaution?
Alors ça, par contre, il y a pas tellement de... Non, c'est pas tellement une tradition, ça. C'est bizarrement, oui, on se croise beaucoup au niveau des salles à manger et des salons, mais il y a pas cette démarche d'aller voir les cuisiniers. Alors ça arrive quand même une fois ou deux par an, mais pas plus.
Voilà, il n'y a pas un président qui a une fringale
Non, voilà, en principe, on met ce qu'il faut dans les appartements privés, dans un petit frigo, des choses éventuelles, mais voilà. Mais en règle générale, ils n'en ont pas besoin, puisque tout est prévu et organisé.
Est-ce que vous prépariez des sandwichs, des encas pour le président Chirac?
Alors oui, c'est arrivé, bien sûr, des petits encas, du saucisson à proximité, des choses comme ça, oui.
Et en termes de boissons?
Alors la fameuse bière, hein, bien sûr, hein, qui était assez présente. D'ailleurs, dès l'instant où il était en privé, on lui en mettait dans un seau à glace.
Oui.
Voilà, oui, bien sûr.
Il y avait des marques particulières?
Exclusivement de la Corona, oui. Qui est une bière qui était en même temps pas très forte.
Très légère.
Ouais. Oui, très légère.
Et dans un seau
Dans un seau à glace, il y avait toujours deux, trois Corona qui étaient mises à disposition, voilà.
Est-ce que c'est vous aussi qui gérez la cave du président?
Alors la cave, non, il y a quelqu'un qui est voué à cela, mais donc c'est une femme actuellement d'ailleurs que M. Sarkozy avait fait venir et qui s'occupe justement. Alors il y a une différence avec peut-être un restaurant ou un client normal, on fait l'accord mais vin. Mais là, bien sûr, le président choisit d'abord le menu et après c'est donc le caviste ou la caviste donc qui va mettre les vins en fonction de ce qui a été choisi.
Et quand un président ne boit pas?
Ben oui, mais enfin bon, de toute façon, il y aura quand même du vin à table. Bon, ça on peut pas, c'est incontournable chez nous quand même, c'est la France. Donc,
alors dans les dîners d'État qui doivent pas forcément être les dîners les plus amusants ni à préparer ni forcément à déguster, comment ça se passe?
Ben le dîner d'État, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier parce que là, on met vraiment notre savoir et puis les produits français en avant. Donc le président reçoit officiellement. Donc là, c'est à nous de. Faut pas se tromper, faut pas faire d'erreur. Mais bon, en même temps, voilà, il y a une équipe de professionnels. Donc tout ça, c'est. Et puis on répète aussi même certains plats qu'on prépare à l'avance, qu'on goûte, qu'on va mettre au point de façon que le jour J, on puisse envoyer ça sans grain de sable.
Et alors, comment les plats arrivent sur la table? Plutôt, comment arrivent-ils dans l'assiette chaud?
Alors ça, c'est un petit peu, c'est vrai, il y a quand même une difficulté de distance, tout simplement, et puis de manipulation. Parce que
vous pouvez nous donner la distance entre la cuisine et...
Je ne l'ai jamais mesurée, ouais. Mais il y a quand même bien... alors, il y a déjà la manip de dresser les plats en cuisine, ça c'est bien chaud, il n'y a aucun problème. C'est mis dans un pass, un monte-plat, qui est chauffé également, et qui va aller au niveau de la salle. Donc, il y a déjà cette manip de mettre dans le pass, le temps que ça monte. Après, il y a une équipe qui va récupérer les plats, les mettre sur la table, pour que les maîtres d'hôtel puissent se ranger et partir avec en salle. Donc, tout ça, il y a un battement quand même entre 5 et 10 minutes qui vont se passer. Et le président, souvent, il est complètement au fond de la salle des fêtes, donc ça va être... 60 ou 80 mètres à parcourir. Donc, alors moi, j'avais demandé à l'époque à Cécilia Sarkozy d'acheter des étuves relais que j'avais placées dans la salle des fêtes pour que justement, entre le moment où on sort de la cuisine et puis on passe dans le monte-plat et puis la livraison sur les tables, donc on remettait au chaud aussitôt là-haut. Et j'attendais vraiment le dernier moment pour ressortir tout là, à proximité de la salle des fêtes. Donc, on avait quand même gagné en chaleur.
Et vous n'avez pas proposé de mettre des patins à roulettes
Non, ça aurait été un peu risqué, je crois.
Et alors, qui est servi en premier?
Le président de la République et son hôte. Alors, c'est simultané. Hein. On appelle deux services, donc c'est service de 6 couverts. Donc, je rappelle que le service à la française, service au plat. Donc, il y a un maître d'hôtel qui va servir l'hôte du président et un autre maître d'hôtel qui va servir le président français, 6 couverts, donc en même temps.
Et quand vous dites vont servir, c'est vont servir ou vont permettre à l'hôte de
voilà présenter puisque c'est le convive effectivement qui va se servir lui-même.
Et pas service à l'assiette, pourquoi?
Alors après ça, parce que c'est la tradition française, hein, tout simplement. Mais bon, après, il y a eu aussi quand même des modifications avec Nicolas Sarkozy, par exemple, qui trouvait que c'était trop long. Donc, il a fallu mettre les entrées à l'assiette et le dessert. J'avais conservé le plat principal au plat. Mais bon, voilà, on faisait des plats de... Autant Giscard d'Estaing et Monsieur Mitterrand, on faisait des plats de 8 ou 9 couverts. Là, on est passé à 5 pour aller gagner du temps également. Voilà, il voulait que ça soit rapide.
Et en termes de gestion, comment ça se passe la gestion de la cuisine qui...
Alors après, la gestion de la cuisine, elle est faite par le chef. Et puis après, bien sûr, on a des comptes à rendre au directeur financier, hein, tout simplement. Oui. Mais après, on peut pas tellement se projeter sur l'avenir, même à court terme, hein, parce que le nombre d'invités change, l'actualité change. Donc il y a des invités qui vont se créer, il y a des déjeuners, des dîners qui sont pas prévus, qui vont se faire. Donc on peut pas budgéter à l'avance, ça c'est impossible, hein, pour le président du moins.
Et votre successeur a eu des consignes particulières en termes de cuisine?
Oui, bien sûr, c'est pareil. Il a rencontré Madame Brigitte Macron le lendemain. Voilà, puis ils ont mis un petit peu la feuille de route en place, bien sûr. Oui, il faut absolument avoir toutes ces informations rapidement parce que les présidents sont des gens qui ont, bien sûr, un emploi du temps très chargé. Et cette partie technique, faut qu'elle soit résolue rapidement pour pas le déranger, tout simplement.
Et Monsieur Gomez, votre successeur, vous avez fait part de la feuille de route?
Non. Non, puis je lui ai pas demandé non plus, ça ne regarde pas. Donc, voilà. Oui.
Et on fera qu'on lui demande pour qu'on...
Voilà, exactement. Voilà, c'est mieux.
Bernard Vaution, est-ce qu'il y a un plat qui a traversé l'histoire des cuisines des chefs de la Ve République?
Oui, c'est vrai. Alors c'est plus un légume qu'un plat, mais bon, c'est vrai qu'on avait c'est Marcel Le Cerveau qui avait amené ça à la cuisine de l'Élysée, un gâteau de pommes de terre.
Alors Marcel Le Cerveau, c'était le chef de Monsieur Pompidou.
Monsieur Pompidou, comme Premier ministre, l'a amené dans ses bagages à l'Élysée lorsqu'il a été élu. Hein, à l'époque. Donc voilà, il nous a amené ce gâteau qui était assez joli en fait. C'est vrai que c'est un gâteau qui fait environ 15 cm de haut et donc c'est des pommes de terre Charlotte qu'on épluche, que l'on blanchit, ensuite on les assaisonne salé et poivre et puis on les monte dans un moule à Charlotte tout simplement qui est bien beurré et puis on les monte par couches mais couches inversées à chaque fois et avec du fromage ou des champignons ou de la truffe, même on a eu l'occasion d'en faire avec de la truffe et c'est monté à chaque étage, donc c'est monté en inverse, ce qui fait lorsque c'est cuit avec du beurre clarifié pendant une heure à 200 degrés et une fois qu'on démoule on aperçoit ces chevrons, ça fait des chevrons en fait, le fait d'avoir des étages inversés. Alors c'est bon, ça sent bon quand on enlève le couvercle et puis suivant ce qu'on a mis dedans. Et puis c'est assez joli, donc ça a accompagné beaucoup de poissons ou de viande au fil des ans.
Et ça s'appelle comment? C'est un gâteau de pommes de terre?
Gâteau de pommes de terre, voilà, tout simplement. Oui, pommes de terre Charlotte et ça va très très bien avec ça. Alors c'est quelque chose qui traverse le temps et même Guillaume Gomez, qui est de la jeune génération, continue à en faire aussi. Donc vous voyez.
Alors Guillaume Gomez, donc qui est le nouveau chef de l'Élysée, meilleur ouvrier de France.
Voilà, quelqu'un de brillant.
Et puis, et qui a été votre second pendant combien de temps?
Voilà, on a travaillé ensemble 17 ans, dont 9 comme mon adjoint, voilà.
Bernard Vaution, est-ce que vous aimez l'accordéon?
Ah bah oui, bien sûr, fait partie de la culture française aussi, ça. Hein.
Oui, et est-ce que le président Giscard d'Estaing vous a joué de l'accordéon?
Ah, personnellement, non, ça c'est vrai, mais bon. Voilà.
Eh bien, il a tenu spécialement à ce que vous puissiez l'entendre jouer.
Ah, très bien.
Et nous avions tout prévu, nous avions pris votre accordéon. Qui est d'ailleurs un petit accordéon.
Oui, c'est un petit accordéon. Il y a des variétés, vous voyez, ça dépend de ce qui est du côté droit. Il y a ce qu'on appelle les accordéons chromatiques, et puis les accordéons contraires à un clavier, et ça c'est un accordéon à clavier.
Monsieur le maire, je pense avoir deviné de quel air il s'agit.
Alors, quel était l'air?
Je cherche fortune autour du chat noir.
Vous faites plaisir parce que vous aviez du mérite à le reconnaître.
Ah non, j'ai reconnu très facilement. Alors j'ai gagné.
Vous avez gagné.
Daniel Gilbert a gagné.
Daniel Gilbert, oui.
C'était le maire de Chamalières. Vous avez peut-être reconnu aussi.
Oui, je suis allé à Chamalières pour le lycée hôtelier.
Merci Bernard Vaution, on va vous laisser retourner chez vous entre Sologne et Gâtinais,
oui.
entre le gibier et le miel.
Voilà, exactement.
Et on peut lire vos recettes d'ailleurs, La cuisine et l'Élysée.
Oui, bien sûr.
Aux éditions Hachette.
Oui, tout à fait. Oui.
Et merci d'être venu jusqu'à nous.
Voilà, avec plaisir. Merci, au revoir.
Faites attention, vous. Hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Kruger avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son est de Valérie Lavalard et la mise en onde de Marie Placé. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez aussi la télécharger. Et dans quelques instants, le journal sur France Culture. Hey, 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 hey.